Les jeudis de la semaine. Une émission proposée par les laboratoires d'Aubervilliers. Chaque jeudi du mois de juillet, une personne en invite une autre pour lire à voix haute des textes choisis. Le jeudi 8 juillet 2021, dans le jardin des laboratoires, Nathalie Quintane invite Stéphane Loi.
Ne me touche pas par tes doigts pleins de vent. Les mains de ta langue remuent trop mon pouls. Les battements rouillés de ton œsophage me freinent. Je n'entends plus ta voix dans mon gros intestin. Tu m'as inverti ma bile en bilan cérébral, où toutes les antiphonies se changent en cacophonie. Tu m'as dénudé de tous les calculs de toujours, pour un peu de strontium désarçonné du robinet anal. Ton urine pénètre mes tibias en cire plastifiée. Et quoi dire de la vapeur iodée qui me fait parler ? Un langage hivernal dans la poire matrimoniale. Oh, ne me souffle pas tes douleurs dans ma mémoire. Je ne serai jamais mon ancêtre, ni le père de ma mère. Le grand-duc de mes premiers pas fait voir le sol. Tu m'as fait en planche corroborée de cholestérol. Je ne peux pas composer l'infrarouge de la myocarde. Ah, je ne sens que l'artichaut est cervelé du crapaud, qu'une impulsion impure me force d'habiter maintenant. Et cette sueur onirique me poursuivra toutefois refroidie jusqu'à la lune s'emparera du cancer de ma naissance N-E-S-A-N-S-E insensée.
Évocalisation. Droit. Gauche. Haut, bas, nord, sud, ouest, est, ciel, tout l'univers immense, univers, ampleur, éclat, intense, unique, soleil. Soleil, soleil, inaltérable, être, ouvertâtre, ultime, soleil.
À sa famille. Strasbourg, le 5 avril 1833. J'ai reçu aujourd'hui votre lettre avec les récits révolutionnaires sur Francfort. Mon opinion est la suivante. S'il y a une issue à notre époque, c'est la violence. Nous savons ce que nous avons à attendre de nos princes. Tout ce qu'ils ont concédé leur a été arraché par la nécessité. Et même ces concessions, ils nous les ont jetés comme une grâce mendiée, comme un misérable jouet destiné à faire oublier sa ceinture trop serrée à cet éternel badaud de peuple. C'est un fusil en fer blanc, un sabre en bois, avec lesquels un Allemand seul pouvait être assez plat pour jouer aux soldats. Nos états provinciaux sont une satire de la saine raison. Nous pouvons encore nous en embarrasser un siècle. Et quand, alors, nous ferons le bilan ? Toujours est-il que le peuple aura payé plus cher les beaux discours de ses représentants que l'empereur romain qui fit donner 20 000 florins à son poète lauréat pour deux vers boiteux. On reproche aux jeunes gens d'user de la violence. Mais ne sommes-nous pas dans un état de violence perpétuelle ? Parce que nous sommes nés et que nous avons grandi dans un cachot, nous ne remarquons plus la fosse où nous sommes, avec des fers aux mains et aux pieds et un bâillon sur la bouche. Qu'appelez-vous donc l'égalité ? Une loi qui fait de la grande masse des citoyens un bétail bon pour la corvée afin de satisfaire les besoins artificiels d'une minorité insignifiante et corrompue ? Et cette loi que soutiennent la brutalité d'un pouvoir militaire et la roublardise imbécile de ses agents, cette loi est une violence brutale et perpétuelle faite au droit, et à la saine raison, et je combattrai contre elle, en parole et en action, où je pourrai. Si je n'ai pris aucune part à ce qui est arrivé et n'en prendrai aucune à ce qui peut-être se passe, ce n'est ni par réprobation, ni par peur, mais seulement parce qu'à l'heure qu'il est, je considère tout mouvement révolutionnaire comme une entreprise vaine et que je ne partage pas l'aveuglement de ceux qui voient dans les Allemands un peuple prêt à lutter pour son droit. Cette opinion insensée a provoqué les événements de Francfort et cette erreur a été chèrement payée. Au demeurant, ce n'est pas un péché de se tromper. Et l'indifférence des Allemands est vraiment d'une espèce à confondre tous les calculs. Je plains de tout cœur ces infortunés. J'espère qu'aucun de mes amis n'est mêlé à l'affaire.
Non. L'histoire regorge de personnes qui n'ont juste pas. Elles ont dit non merci, ont fait volte-face, ont fui au désert, ont vécu dans des tonneaux, ont foutu le feu à leur propre maison, ont tué leur violeur, ont repoussé l'assiette qui contenait leur dîner, ont médité jusqu'à trouver la lumière. Même les bébés refusent, et les vieillards aussi. Les animaux refusent aux eaux, ils lorgnent. Par-delà, le plexiglas d'un œil moribond jette leurs excréments vers les visages humains. Les classes refusent, les pauvres balancent leur vie sur les barricades. Les ouvriers ralentissent la chaîne. Les personnes asservies ont toujours refusé, en empoisonnant les festins, en avortant les embryons. Et celles et ceux qui déploient une ardeur assidue à traverser au feu rouge s'affirment dans leur opposition au trafic comme la primordiale et capitale leçon quotidienne dans l'art de ne juste pas. Ne rien dire constitue l'une des méthodes préliminaires du non. S'astreindre à ne pas dire, c'est travailler à se rendre inflexible, et c'est d'autant plus vrai en société. Cicéron a écrit « Cum tassant clament », leur silence crie bien haut. Et ils ne s'y trompent pas. Qui ne dit mot ne consent pas toujours. Le silence conspire, aussi souvent qu'il consent. Une salle peuplée de personnes d'ordinaire animées, dont nul ne souffle mot, mais qui toutes ont leurs yeux braqués vers une figure d'autorité, constitue le silence comme l'ébauche d'un irrévocable sans nous. En certaines occasions, notre refus tient dans notre immobilité. On met du soin à zoner avant d'en mettre à charbonner. Bambine, on a toutes un jour laissé les adultes s'agiter autour de nos petits corps alors qu'on s'adonnait à l'inspection d'un trèfle ou d'une dalle de carrelage. Ados, on zonnait aussi, invoquant sécurité afin de nous déloger, un peu comme cette fois où, alors que je me trouvais dans un coin plein de chiens errants, j'ai remarqué que la principale occupation de la police locale était d'empêcher ces chiens de s'attarder dans la fontaine publique et que sitôt un groupe de chiens évacués d'une fontaine par les flics, un nouveau groupe de chiens s'y installait.
Le soir de la reddition de Bréda, Roger de la Tour de Babel, avocat au Châtelet, prit sa canne et s'en alla. En 1954, à Tracy, Maurice Duplessis, avocat au Châtelet, mourut d'hémorragie cérébrale, célèbre et célibataire. J'ai 16 ans et je suis un enfant de 8 ans. C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas facile à comprendre. Personne ne le comprend excepté moi. N'être pas compris ne me dérange pas. Cela ne me fait rien, je m'en fiche. Moi, je reste le même. Je ne veux pas aller plus loin, je reste donc arrêtée. Je ne veux pas continuer car je ne veux pas finir fini. Je reste comme je suis, je laisse tout s'avilir, s'empuantir, se dessécher. Je les laisse tous vieillir, loin devant moi. Je reste derrière, avec moi l'enfant, loin derrière, seul, intact, incorruptible, frais et amer comme une pomme verte, dur et solide comme une roche. C'est important comme le diable ce que je dis là. C'est tout pour moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi, l'enfant, quelqu'un qu'il garde. qui le protège du tragique du monde, qui est ridicule et qui rend ridicule. Je ne peux pas laisser moi, l'enfant seul dans le passé, seul présent dans toute l'absence, à la merci de l'oubli. Je le veille loin derrière. Je veille le ventre dans toute la cendre, avec des cadavres qui me laissent tranquille, avec tout ce qui est cadavre, seul avec l'enfant moi, seul avec une image dont le teint s'use sous mes doigts. Je ne veux pas changer. En secret, je continue de courir avec mes chiens, de porter la culotte courte, de pêcher des têtards avec Ivujivik. Je ne suis pas fou. Je sais ce que je fais et sais où je suis. Il est 7 heures du soir. C'est le 9 septembre 1965. Et les hommes ont besoin des hommes, même de ceux qui sont morts. J'ai besoin des hommes. Je rédige cette chronique pour les hommes quand ils écrivent des lettres à leurs fiancés. Je leur écris parce que je ne peux pas leur parler, parce que j'ai peur de m'approcher d'eux pour leur parler. Près d'eux, je suffoque, j'ai le vertige des gouffres. Si j'ai peur de leur adresser directement la parole, ce n'est pas parce que je suis timide, mais parce que je ne veux pas rester embourbée dans leurs glaisières profondes, dans leurs abîmes marécageux. J'écris mal, je suis assez vulgaire, je m'en réjouis. Mes paroles mal tournées et outrageantes éloigneront de cette table où des personnes imaginaires sont réunies pour entendre les amateurs et les amatrices de fleurs de rhétorique.
Un regret. Ne plus savoir ce qui va se passer. Abandonner le monde en plein mouvement, comme au milieu d'un feuilleton. Je crois que cette curiosité de l'après-mort n'existait pas autrefois, ou existait moins, dans un monde qui ne changeait guère. Un aveu. Malgré ma haine de l'information, j'aimerais pouvoir me relever d'entre les morts tous les 10 ans, m'avancer jusqu'à un kiosque à journaux et en acheter quelques-uns. Je ne demanderai rien de plus. Mes journaux sous le bras, pâles, frôlant les murs, je reviendrai au cimetière, je lirai les désastres du monde avant de me rendormir satisfait, à l'abri, rassurant de la tombe. La musique a toujours été pour moi un outil, une plateforme qui permet d'atteindre les gens, de préférence un nombre raisonnable de personnes, pas un très grand nombre, mais suffisamment. Je ne suis pas un amoureux inconditionnel de la musique, je ne me suis jamais considéré comme un musicien. En fait, je me sens toujours incroyablement offensé quand je vois quelqu'un dans un article ou un livre faire référence à moi comme un musicien. Je me vois comme un ingénieur culturel, le terme le plus approprié. Il y a déjà de la musique et les gens l'aiment. Ils l'écoutent déjà de la musique. Ça fait partie du grand chaudron culturel de la société, au même titre que la télévision. Mon territoire s'étend à tout ce avec quoi les gens travaillent, tous ceux qui les affectent ou les conditionnent. Au début des années 70, avec Frobbing Gristle, ma première exigence fut de demander à chaque personne impliquée de manière inflexible et absolue qu'il n'y ait ni batteur, ni guitariste solo, ni guitariste rythmique. Je pensais, à tort ou à raison, que la musique populaire occidentale descendait de la musique féodale, de la musique des esclaves. Je n'étais pas pressé de m'avouer ancien esclave dégénéré. Je suis un enfant de la classe moyenne blanche. J'ai souvent débattu de la question avec des groupes punk qui disaient « Apprenons 3 accords et formons un groupe ». Et je pensais « Mais diable, pourquoi apprendre 3 accords ?» Pour moi, c'est là que repose le problème du punk. Les punks voulaient apprendre à jouer de la musique, apprendre à jouer de la musique enracinée dans le rhythm and blues. C'est une nouvelle fois devenir l'esclave du système. Alors si tu dois jouer de la musique d'esclave, autant que ce soit d'un esclave de la société post-industrielle, d'une société où les gens travaillent dans les usines et les fabriques. Et ça, personne ne l'avait jamais vraiment fait. Personne n'avait pris la décision effective de jouer une musique enracinée dans l'expérience de la société occidentale européenne et de la société industrielle. Et c'est donc ce que nous avons fait. Nous nous sommes inspirés des tapis roulants, des usines, des centrales électriques et des biens de consommation de masse pour imaginer les formes de notre musique. Nous avons expérimenté à partir de ces matériaux plutôt qu'à partir des guitares. Cela signifiait qu'il nous fallait chercher au-delà des instruments traditionnels. Roland proposait un équipement qui nous enthousiasma. Il ne réclamait pas un savoir musical traditionnel, mais simplement de la logique et de l'inspiration. Malheureusement, comme c'est le cas pour tous les outils et tous les jouets, Son utilisation semblait réglée d'avance, son usage spécifique et très limité. Si tu donnes une guitare à un enfant, il va sauter dessus, taper dessus, la jeter contre les murs. Il ne va pas jouer des accords, ni un beau morceau de musique classique. Il va considérer ce que fait l'objet dans son entier. Apprendre à penser, tout est là.
Je ne sais pas si toutes les limaces qui viennent là supportent la chaleur même un peu humide qui maintenant nous envahit, et je n'ai pas pensé les arroser toutes. Je vois bien qu'elles sont puissantes, invisibles le plus souvent, puissantes parce qu'invisibles, et qu'elles viendront à bout de moi si je ne les apprivoise pas au moins un peu. Elles supportent mon ennui. Je voudrais savoir qui le comprend aussi bien que celle que je fais rouler d'un doigt sous la salière. Je la barbouille. J'observe les effets sur elle du gros sel quand je le verse. C'est une opération facile à concevoir et évidemment simple à réaliser. Le sel sur le corps visqueux, mou, absorbe l'eau que la limace contient en quantité à cause de la pluie dont elle s'imbibe. C'est une hypothèse. Et la limace se dessèche jusqu'à devenir rien. C'est en cela qu'elle m'impressionne encore. Je comprends que le sel brûle, n'aurait pas dû, d'une brûlure qui, de la périphérie de la limace, gagne le cœur sans perdre d'intensité, en en gagnant peut-être par dessèchement progressif, douloureux et lent. Je peux imaginer l'augmentation de son effet. J'insiste, sa propagation en profondeur, l'enfoncement dans la brûlure que je sais imaginer désormais, bien que je ne l'ai pas tout de suite considéré, soupçonné peut-être. Devant la poussière blanche du sel que je versais encore, secouant la salière systématiquement, pressée pour la limace qui, sous la première pincée, avait relevé au-dessus de ses tentacules une sorte de corolle translucide sur ses bords, qui peut-être l'aurait défendue, si c'en était la fonction, d'autre chose que de la manifestation exceptionnelle que je produisais pour elle. Je ne trouve cependant nulle part mention de cette corolle, que j'ai cru pourtant observer plusieurs fois et dont j'ai rêvé souvent le déploiement. Je ne sais pas si l'on mesurera bien l'intensité de l'expérimentation que je raconte. Je devine qu'elle rappelle quelque chose d'ordinaire mais un peu étrange, lointain, qui éveille embarras et réticence, particulièrement lorsqu'on y réfléchit, ce que tous comme moi ne font pas. Quelque chose dit oui et non, et tous non plus ne comprennent plus tout à fait. Par exemple, que les limaces soient des mollusques hermaphrodites, peu savent le concevoir clairement. Comment supporte-t-elle, me dit cet homme se contorsionnant pour le mimer, quand de mâle elles se transforment en femelles? Ne dirait-il pas de femelle en mâle s'il ne s'identifiait à elle à ce moment? Comment résiste-t-elle à la répétition d'une souffrance aussi insupportable? Demande-t-il dans une sorte de visible hallucination qui me fascine à l'instant. Je ne connais pas mieux que lui les trucages de nos transformations. Et c'est à peine si je les discerne et les supporte. Je m'exalte à leur sujet, mais me décourage le plus souvent. Et si je glisse facilement vers l'indifférence, faut-il penser que c'est par ignorance du mâle ou de la femelle que je serai? Combien d'autres traitent de la sexualité des limaces? Combien daigneront se considérer sérieusement grâce à elles? Ai-je confondu trop habituellement la bave gluante et lumineuse des limaces avec un sperme hypothétique? Cette dame, qui me dit voir parfois son jardin briller entièrement des filets blancs laissés par elle, à quoi pense-t-elle? Durant la longue copulation avec leurs semblables, les limaces ne se transforment pas comme le supposait l'homme de la page 34. Limaces mâle-mâle ensemble, puis limaces femelle-femelle seule, mais ce bouillonnement du sperme après plusieurs heures de lente et fantasmagorique contorsion, ce bouillonnement de bave et de sperme nous ne nous lassons pas de le rechercher. Les longues heures passées à s'enduire réciproquement d'un médiateur chimique, les corps enroulés ensemble, dont les excroissances péniennes éjectent soudain l'amas cristallin d'un spermatophore bleuté qui libère le sperme de chacune dans l'autre, ne les avons-nous pas rêvés ? Comment la limace redeviendrait-elle le mâle qu'elle n'a pas été ? Y a-t-il pensé ?
10 août. Cherche toujours à entrer dans toutes les chambres de Park House pour s'assurer de ce qui s'y passe. S'est inventé un culte avec les petits papillons de nuit qui volettent dans sa chambre. Il les appelle « petites bêtes qui ont une âme ». Il peut s'entretenir avec elles pendant des heures, est très préoccupé parce que son petit papillon n'a rien à manger, veut lui donner du lait, lui rapporte de sa promenade une feuille de tilleul. Est malheureux quand le petit papillon s'en va, le cherche alors partout, est heureux de retrouver un autre petit animal. Il leur parle de la façon suivante. « Petit papillon, le professeur te remercie de pouvoir bavarder avec toi. Puis-je te dire toute ma douleur ? Pense un peu, petit papillon, le 18 novembre 1918, j'ai eu si peur pour ma famille que j'ai pris mon revolver et que j'ai voulu la tuer, et moi avec. Tu sais, parce que les bolcheviks arrivaient. Alors, Dette a dit, mais papa, que fais-tu ? Alors, ma Miken a lutté avec moi, voulant me prendre l'arme. » Sais-tu, petit papillon, alors ma petite chauve-souris a téléphoné à Malice. Ils sont venus tout de suite en automobile, amenant avec eux le docteur Franke et le sénateur Petersen. Puis Petersen s'est caché dans mon placard et je suis sorti avec ma Miken et Franke. Petersen m'a dit « Warburg, je ne t'ai jamais rien demandé, mais maintenant je te prie de venir avec moi à la clinique car tu es malade. » Tu sais, alors je suis allé chez Linau avec Miken. Et là, nous avons mangé du foie de lapin. Alors j'ai dit, « Ma Miken, ne mange pas de foie de lapin. » Elle n'a rien entendu, et le malheur est arrivé. Des heures durant, écrit des lettres à sa femme sur le petit papillon. Quand l'infirmière eut, pour peu de temps, l'œil enflé à cause d'une piqûre de moustique, le patient fut très soucieux de savoir s'il n'était rien arrivé au petit moustique.
Chant 1. À 45 ans, je me retrouvais dans une forêt, tout perdu vers la gauche. C'est dur de dire comment j'ai eu peur, si ce n'était qu'à la gorge, aucune salive ne transite. Dieu sait si pourtant j'essaye de déglutir. Plus traumatisant cela semble dur. Ceci étant, j'en tire quelques leçons. En tout cas, j'étais crevée tant je ne me souviens plus quand j'ai dû bifurquer, puisque j'arrivais en bas de la colline où la vallée se finissait avec la Piche, la cascade d'eau. C'est cette dernière qui m'avait tellement impressionnée. J'eus moins la peur de l'eau salée après une telle nuit comme on nage, saute du rocher assez haut, on se sèche à la rêche serviette, le sel poisseux aux cheveux hérissants jusqu'au flot d'où l'on sort exténué, voire plus. Je suis vivant, alors que j'aurais pu y rester, écouler, puis remonter, tout gonflé, mais non. Bien reposé de ses émotions, en voilà d'autres, à gravir déserté comme de juste, juste par un cougar âgé. Chiant, qu'à chaque enjambée il m'énerve, de ne pouvoir y aller franco, de remonter la pente, comme le soleil escorté de près par les autres objets, finalement célestes. Agréablement surpris devant ce très beau félin à cette heure-ci, mais quand même peureux devant de nouveau composé avec cette fois un lion, carrément représentant l'orgueil, des notes en bas de page, si bien que l'air en frémit. D'un coup arrive une louve, à moins de n'incurver celle-ci en pure avarice, auquel cas il est normal qu'elle fît en Dette extérieure souffrir son chaland, à tel point que je refuse d'aller plus haut et déclare Merci pour la balade en moyenne montagne, mais il se fait encore tard. La preuve est qu'on m'y pousse. Quelqu'un sait et me taquine avec beaucoup de faiblesse et des allégories, soi-disant. Marche arrière, je fais, quand de suite j'offre à mes yeux un homme habillé en tissu que je hèle. Laisse-moi tranquille, qui que tu sois. Il me tint la jambe, dit qu'il était poète, se disait romain sous Auguste, que ses parents étaient lombards, habitant la Côte d'Azur, près Menton. Que les dieux sont menteurs, qu'ils font les faux. Connu d'aînés, arrivant de Troie après que Lyon fut brûlé. Pourquoi retournes-tu vers Gênes? Ça te dit de monter? Extrêmement gêné, morceau de boc, expression avignonnaise décrivant une personne rougissant soudainement. Extrêmement gêné, morceau de boc, je lui demande s'il est Virgile, des fois. Espèce d'avant-garde pour les autres, pensais-je. S'il te plaît, respecte-moi, supplique. Vous êtes mon chef, chef. Je vous imite en tout, comme l'on entame un camembert. Comment lui couperait, me dis-je sans cesse. Si c'est pas malheureux, alors si vous pouviez intercéder en ma faveur, auprès de qui vous savez? L'animal, là-haut? Oui, chef, je sens que je fais la danse de Saint-Guy. Alors fiche le camp, contourne l'obstacle, tire au flanc, car cette bestiasse jamais ne s'arrête de nuire. C'est une fioriture. Ah? Elle peut être estourbie que par Monsieur Lévrier. Eh oui, Monsieur Lévrier, qui chassera bête et fourrure, car n'est animé, pour le coup, d'aucune dette, juste à rabord de vertu, vomissant des sagesses, sentant l'amour dessous les bras, et passe le bonjour sur l'Italie, ou la Costa Brava d'hôtel en patio, de pédiluve en plage de Tesson, où l'on se blesse, cric après cric. Au travers les crispés klaxonnants des défaites, au travers les contents baignant dans la gent orange du soir de leur vie, prenant le frais sous la tonnelle du jardin, permettant à leur ombre soudain de tout gangréner, se joint alors pour s'écharper au plus haut des cieux, toi, pendant ce temps, tu pourras choisir une ombre sur mesure. Car je suis rebelle quand même à ces desiderata, et tu seras tricard si je t'accompagne de trop. Mais s'il te plaît, au nom de Dieu, le Père, que vous ne connaissez pas encore de votre vivant, emmenez-moi au paradis voir les fatigués. Alors, on marcha.
Écrire sur la mélancolie n'aurait de sens pour ceux que la mélancolie ravage que si l'écrit venait de la mélancolie. J'essaie de vous parler d'un gouffre de tristesse, douleur incommunicable qui nous absorbe parfois et souvent durablement, jusqu'à nous faire perdre le goût de toute parole, de tout acte, le goût même de la vie. Ce désespoir n'est pas un dégoût qui supposerait que je sois capable de désirer de création, négatif certes, mais existant. Dans la dépression, si mon existence est prête à basculer, son non-sens n'est pas tragique. Il m'apparaît évident, éclatant et inéluctable. D'où vient ce soleil noir ? De quelle galaxie insensée ces rayons invisibles et pesants me clouent-ils au sol, au lit, au mutisme, au renoncement? La blessure que je viens de subir, tel échec sentimental ou professionnel, telle peine ou tel deuil qui affecte mes relations avec mes proches sont souvent le déclic facilement repérable de mon désespoir. Une trahison, une maladie fatale, tel accident ou tel handicap qui m'arracherait brusquement à cette catégorie qui me semblait normale, des gens normaux, ou qui s'abattent avec le même effet radical sur un être cher, ou encore, que sais-je. La liste est infinie des malheurs qui nous accablent tous les jours. Tout ceci me donne brusquement une autre vie, une vie invivable, chargée de peines quotidiennes, de larmes avalées ou versées, de désespoir sans partage, parfois brûlant, parfois incolore et vide, une existence dévitalisée, en somme qui, quoique parfois exaltée par l'effort, que je fais pour la continuer est prête à basculer à chaque instant dans la mort. Mort vengeance ou mort délivrance, elle est désormais le seuil interne de mon accablement, le sens impossible de cette vie dont le fardeau me paraît à chaque instant intenable, hormis les moments où je mobilise pour faire face au désastre. Je vis une mort vivante, chair coupée, saignante, cadavérisé, rythme ralenti ou suspendu, temps effacé ou boursouflé, résorbé dans la peine, absente au sens des autres, étrangère, accidentelle au bonheur naïf, Je tiens de ma déprime une lucidité suprême, métaphysique, aux frontières de la vie et de la mort. J'ai parfois le sentiment orgueilleux d'être le témoin du non-sens de l'être, de révéler l'absurdité des liens et des êtres. Ma douleur est la face cachée de ma philosophie, sa sœur muette. Parallèlement, le philosopher sait apprendre à mourir, ne saurait se concevoir sans le recueil mélancolique de la peine ou de la haine qui culminera dans le souci de Heidegger et le dévoilement de notre être pour la mort. Sans une disposition à la mélancolie, il n'y a pas de psychisme, mais du passage à l'acte ou au jeu. Cependant, la puissance des événements qui suscitent ma dépression est souvent disproportionnée par rapport au désastre qui brusquement me submerge. Plus encore, le désenchantement, fût-il cruel, que je subis ici et maintenant, semble entrer en résonance à l'examen avec des traumas anciens dont je m'aperçois que je n'ai jamais su faire le deuil. Je peux trouver ainsi des antécédents de mon effondrement actuel dans une perte, une mort ou un deuil de quelqu'un ou de quelque chose que j'ai jadis aimé. La disparition de cet être indispensable continue de me priver de la part la plus valable de moi-même. Je la vis comme une blessure ou une privation, pour découvrir toutefois que ma peine n'est que l'ajournement de la haine ou du désir d'emprise que je nourris pour celui ou pour celles qui m'ont trahi ou abandonné. Ma dépression me signale que je ne sais pas perdre. Peut-être n'ai-je pas su trouver une contrepartie valable à la perte ? Il s'ensuit que toute perte entraîne la perte de mon être et de l'être lui-même. Le déprimé est un athée radical et morose.
Sonnet à Sir Bob, chien de femme légère, braque anglais pur sang. Beau chien, quand je te vois caresser ta maîtresse, je grogne malgré moi. Pourquoi ? Tu n'en sais rien. Ah, c'est que moi, vois-tu, jamais je ne caresse. Je n'ai pas de maîtresse et ne suis pas beau chien. Bob, Bob ! Oh, le fier nom a hurlé d'allégresse. Si je m'appelais Bob, elle dit Bob si bien. Mais moi, je ne suis pas pur sang. Par maladresse, on m'a fait braque aussi, matinée de chrétien. Oh, Bob, nous changerons à la métempsychose. Prends mon sonnet, moi ta sonnette à faveur rose. Toi ma peau, moi ton poil, avec puce ou non. Et je serai Sœur Bob, son seul amour fidèle. Je mordrai les roquets, elle me mordrait, elle. Et j'aurai le collier portant son petit nom.
On finit. Non, je l'écarte.
Pendant ce temps-là, un caravane au village passe. C'est une équipée qui fait du stand-up pour amuser les foules. Trois d'entre eux répètent l'induction, Michel de Zombie, Dominique Fantôme et Jacques Mann. Une pièce de théâtre qui bug. Ce n'est pas une petite musique mécanique sans faille. Jamais, sans jamais perdre le contrôle. C'est mieux. Anton écoute les répètes de loin. Je reste quelques jours artificiels dans la plaine métallique à les regarder. Me sens bien. J'entends la langue autrement. Sinon, c'est une machine. Une machine de guerre rhétorique. Une enrobeuse sucreuse de discours. Une sans jamais rien ne dire. La langue de la corpation. Dans l'induction, les zombies gooment, dérèglent. Eux font sauter les plombs de la langue à coups d'erreur, de massue. Eux sont revenus d'entre les morts pour as. With foreign words. Schlag, schlass, schloss. Schim, schum, schuma. Ni, que, tout. Je me délecte des insultes zombies, du changement d'auteur en cours de récit. Les zombies acteurs dénoncent l'imposition de la loi par le langage. Ils disent que si les pages de la corpations font autant d'efforts pour punir celles ou ceux qui ne parlent pas leur langue, c'est parce que c'est celle du pouvoir. Que la conviction que si tu fais des fautes, t'es débile, s'est insinuée en chacun de nous, parce qu'en plus, t'as fait des efforts pour l'apprendre, la bonne langue, t'as appris, t'as souffert. Blablabla. Donc tout ça, c'est des conneries. Selon ton caravane au village, tu souffres wesh x mille fois moins ou wesh x mille fois plus pour apprendre la langue corpo, dont les scribouillards changent les règles en cours de route pour ne jamais être rattrapés dans leur maîtrise par les autres courtisans. Bam ! Dans l'induction, les zombies acteurs se mettent à causer l'accent. Tout devient très intime. Les voix se troublent. Elles tremblent, prises par l'émotion. Eux avouent qu'elles passent leur temps à masquer leur accent pour ne pas avoir l'air d'eux. Et puis la parloterie dérive sur l'enfance et la mif. Je capte que cet accent dont eux l'ont honte est la partie la plus intime de leur rapport à la langue. Émue, tout en écoutant, je parle dans ma tête pour essayer de me rendre compte de mon propre accent. Je découvre que cette obsession de l'effacement de l'accent nous rend inaptes à l'apprentissage d'autres langues, qui, elles, assument les accents, les intonations, la mélodie des mots. Les trois zombies acteurs évoquent une histoire étrange, celle d'une langue perdue, d'une civilisation engloutie par la corpation. Une Occitanie idéalisée où les trobards zombies ne pensaient qu'à chanter la mort et les oiseaux du printemps en rimant selon les règles du jeu. Des chants qui n'existent plus que dans nos corps et nos mémoires zombies. Pour la détruire, Astro Richelieu a mandé l'abbé Grégaire, qui a alors mené une véritable opération de destruction des patois pour les remplacer par la langue corpo, telle que fixée par l'arbitraire du pouvoir. Il a utilisé pour ce faire un questionnaire dont les questions identifient, méprisent et détruisent les langues des satellites en les appelant patois. Michel de Zombie, notre honte vient de loin. Jacques Mann, fils de chien. Dominique Fantôme, oulala 1. J'ai de l'affection pour ces trobards zombies, parce que j'ai entendu cette langue d'amour parfois prononcée par mes aïeux, mais si je dois choisir une langue idéale, c'est celle de mon enfance. Une langue construite par un mélange de plusieurs langues, un mélange d'argot, de mots inversés, d'inventions, d'abréviations, de mots anciens, de répétitions, de règles collectives. Une langue conçue pour résister au pouvoir, jeune, belle et éphémère. Si éphémère que je ne la parle presque plus, à part avec certains amis rescapés de cette époque. C'est à cause de la perte de cette langue que j'écris, que je veux mettre la langue en I. I-Y. Générique. Comment on fait alors ? Je sais plus, on va tout faire tomber.
Non, on va le faire comme ça, c'est pas grave.
Ouais, vas-y alors.
Toi.
Ouais. Théo Robin Langlois, Le Gabion. Corbière, Tristan, Les Amours Jaunes. C'était Sœur Bob.
Julia Kristeva, Soleil Noir.
Stéphane Bérard, L'Enfer, traduction de Aldante.
Biswanger et Warburg, La Guérison Infinie.
Anne Parian, Les granules bleus.
Modulation, un entretien avec Genesis Pioridge et Mon dernier soupir de Louise Bunuel.
Régent du charme, le nez qui voque.
Anne Boyer, non.
La correspondance de Georg Büchner, 1833.
T'es prête ?
Ouais. Raoul Haussmann, une anthologie poétique.
Günther Anders, L'obsolescence de l'homme.